Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. En décembre dernier, Javier Milei a été élu président de l'Argentine avec 56% des voix. Il a fait campagne avec une tronçonneuse en main, je dis bien une tronçonneuse, en multipliant insultes et provocations. Ultralibéral, il se dit anarcho ou anarcho-capitaliste et déploie depuis une politique massive et brutale de dérégulation de l'économie et de destruction de l'État social, ceci dans un pays qui compte 40% de pauvres avec une inflation de 143% en un an et 42 milliards d'euros de dette au Fonds monétaire international, un record. L'Argentine peut nous paraître très lointaine, de l'autre côté de l'Atlantique, dans l'hémisphère sud. Mais ce qui s'y passe fait écho aux ravages de Jair Bolsonaro au Brésil et à ceux, passés et peut-être à venir, de Donald Trump aux États-Unis. Ces phénomènes de déliquescence de la politique et de recul de la démocratie, on ne peut pas les ignorer, d'autant plus que l'Europe n'est pas complètement épargnée par ce phénomène. La Carmagnole accueillera le 14 mars une soirée consacrée à l'Argentine intitulée « Argentina no se vende », l'Argentine n'est pas à vendre. Pour nous la présenter et pour nous permettre de comprendre la situation dans ce pays, j'ai invité deux de ses organisateurs, Américo Bolatti et Eva Palaminos. Je remercie l'un et l'autre d'être venus aujourd'hui au micro de Divergence FM.
Merci à vous.
Merci à vous pour cette invitation.
Avec plaisir. Américo Bolatti, vous êtes argentin, résident en France depuis 23 ans et à 7, c'est toi donc depuis 20 ans. Mm-hmm. De profession, vous êtes auditeur légal, c'est ce qu'on appelait jusqu'à présent commissaire aux comptes. Vous présidez l'association SALSA, 7 Amérique latine semaine artistique, créée pour promouvoir la culture latino-américaine, notamment par le cinéma. Depuis 18 ans, cette association SALSA organise à 7, donc et prochainement donc du 5 au 11 octobre, un festival de ciné latino avec films, expositions et animations. Absolument. Ma deuxième invitée fait partie du réseau de celles et ceux qui sont sensibilisés, mobilisés, je dirais, par l'actualité et la vie politique latino-américaine. Eva Palaminos, vous êtes d'origine chilienne, réfugiée en politique en France en 1976, 3 ans donc après le coup d'État de Pinochet. Vous aviez alors 22 ans, quelque chose, ou 23 ans. Vous avez fait votre vie en France. Vous êtes depuis 1990 psychologue à l'ARIEDA, l'Association régionale d'intégration des déficients auditifs. Vous n'avez pas cessé d'être engagé dans l'Association des prisonniers politiques chiliens, dans l'association qui réunit les mères d'enfants disparus. Et donc, vous continuez à militer pour la démocratie au Chili. Avant de partir pour l'Argentine et de faire un petit détour par le Chili, pour respecter la formule de l'émission, je vais vous inviter à raconter brièvement votre Montpellier. Quels sont les lieux, Eva, à Montpellier, que vous appréciez particulièrement, que vous recommandez à vos amis qui viennent vous rendre visite?
J'aime bien le centre historique.
Le centre médiéval.
Franchement, c'est quelque chose que... Depuis le temps que j'habite ici, j'apprécie toujours autant.
Les petites
Les petites rues, il y a beaucoup de trompe à l'œil, il y a beaucoup de choses qui sont insolites à Montpellier. Et il règne une atmosphère très particulière. J'aime beaucoup.
Ah oui, mais qui est dû, par exemple, notamment au grand nombre de jeunes et d'étudiants qui donnent cette atmosphère-là de gaieté ou de légèreté.
Oui, bah, ça a toujours été une ville qui bouge parce qu'il y a toujours eu un grand nombre d'étudiants. Hein. Maintenant, la ville elle a beaucoup grandi, donc la proportion d'étudiants aussi. Mais je trouve qu'il y a un mouvement culturel qui est très important. Il y a toujours eu de belles expos à Montpellier. Il y a eu même le pavillon populaire avec
les
expos photos dans le centre Dominique Bagué. Il y a aussi une saison aux deux opéras de Montpellier qui est très belle. Enfin, au niveau des festivals, il y en a à l'appel. Enfin, c'est vraiment une ville qui est très dynamique, très riche.
Alors, on va demander aussi, toi, vous savez peut-être, Mirico, qu'il y a des relations compliquées, bon, amour et renvoi de balles entre Sète et Montpellier, mais j'ai déjà invité, c'est toi, à ce micro, donc j'imagine que vous venez assez souvent à Montpellier. Comment vous voyez cette ville? Quels sont les agréments que vous y trouvez?
J'ai partagé ma vie entre Montpellier et Sète, parce que j'habite à Sète, mais je travaille à Montpellier.
Ah, d'accord, donc vous êtes à moitié montpellierain.
Du coup, je suis mi-sétois, mi-montpellierain. Donc, les centres historiques, évidemment, c'est, comme Eva, quelque chose que j'adore. Mais j'adore aussi le sens cosmopolite de la ville. Pouvoir monter dans un tram et écouter parler dans différentes langues, par exemple.
Notamment, les trams qui vont vers le nord de la ville, vers le quartier des universités ou des...
Voilà, donc il y a une ambiance jeune à cause des étudiants, évidemment. Une ville engagée culturellement, avec une offre culturelle énorme.
Oui, c'est ce que disait Eva, oui.
Et puis des endroits qui sont magnifiques. J'aime bien aussi me promener dans les verges du Lès.
Ouais.
Et les terrasses de café avec le soleil du mois de février qui invite à se poser. Puis, moi, je trouve que c'est une ville formidable. En plus, le sens du design.
Oui.
Donc les trams de Montpellier qui sont à la fois moyens de transport et de la décoration de ville, en fait.
Ouais.
Donc il y a un effort énorme qui a été fait pour rendre la ville moderne et attractive.
Le tram a été conçu comme une œuvre artistique confiée à des designers.
Absolument.
Et donc c'est des œuvres d'art qui se promènent dans la ville, quoi. Bon, merci. Donc vous êtes embauchés à l'office de tourisme tous les deux, là, je vous l'indique. On va maintenant passer au sujet principal. Bon, bien sûr, c'est plus sérieux. Donc, le collectif qui va être lancé le 14 mars à la Carmagnole s'appelle, je le rappelle, Argentina no se vende. Pourquoi cette dénomination, et dans quelle logique cette initiative se situe?
Alors,
et après, vous nous direz quel est le programme qui sera proposé ce soir-là.
On n'est pas du tout original, c'est-à-dire qu'à l'occasion de la grève générale qui a eu lieu le 24 janvier en Argentine pour protester contre les mesures que le gouvernement actuel voudrait mettre en place. Donc il y a eu des mobilisations partout dans le monde et en Europe, notamment à Toulouse, Madrid, Barcelone, Berlin, Bruxelles, Rome, il y a eu des mobilisations sous le titre de Argentina no se vende, l'Argentine n'est pas à vendre.
Alors, ça renvoie à quoi cette affirmation-là, ce mot d'ordre?
Alors,
on regardera les mesures après.
Un des risques les plus importants de l'ensemble des mesures annoncées par le gouvernement, c'est la privatisation des entreprises publiques, mais aussi la étrangérisation de ressources naturelles. C'est-à-dire que, notamment, il y a une bonne entente entre le président et Elon Musk, et donc ça pourrait avoir des conséquences sur la privatisation du lithium en Argentine.
Qui est une des richesses de l'Argentine.
Des richesses de ressources naturelles. Donc l'Argentine, c'est un pays géographiquement et physiquement très riche qui malheureusement n'a pas su gérer de façon adéquate ses richesses. Et le fait que cette nouvelle vague néolibérale se mettent donc à vendre le pays comme si c'était une entreprise qu'on part en morceaux et qu'on vende par section. Donc c'est un risque réel.
Bien, donc ça explique la chose. Alors, quel sera le programme le 14 mars ? Je ne sais pas s'il va ou peut nous en dire un mot. Là, bon, projection d'un film et puis débat, bon, à grande ligne. Donc,
Oui, alors on va projeter un documentaire qui est très important. C'est Solana.
Pina Solana,
oui. Qui dure à peu près 2 heures, un peu moins de 2 heures. Et qui raconte.
Qui est un documentaire pas très récent, mais qui a analysé.
Oui, parce qu'il explique les premières tentatives de néolibéralisation, celles qui sont produites juste après, et durant la dictature et après, je crois, non ?
Oui. Alors, c'est un documentaire qui date de 2004, donc c'est 20 ans de la réalisation de ce documentaire, qui s'appelle « Mémoire d'un saccage ». Et on doit faire le lien avec la célébration qui se fait le 24 mars en Argentine. C'est une commémoration du coup d'État, pour ne pas oublier justement. C'est ce qu'on appelle le jour de la mémoire pour la vérité et la justice. Donc, le 24 mars, c'est en Argentine. En écho avec cette commémoration, il nous a semblé pertinent de ressortir à la lumière ces documentaires très bien faits qui expliquent la catastrophe économique qui est arrivé à éclosion en 2001, mais qui trouve ses causes bien avant, comme un exercice de mémoire, justement.
Oui.
Donc un exercice de mémoire qui pourrait être aussi le déclencheur d'une conversation. C'est pour ça qu'on a appelé ça un conversatorio, parce qu'il n'y aura pas un maître de conférence à expliquer la réalité, il n'y aura pas des débats des gens
académiques
académiques. L'idée c'est que chacun puisse s'exprimer et qu'on puisse faire un exercice de mémoire, parce que ce qui est en train de se passer c'est très grave et il faut qu'on arrive à comprendre.
D'accord. Donc c'est bien l'objectif de cette soirée, avec cette forme particulière d'échange là ouvert entre tous les participants qui le voudront, conversatorio. Alors, vous faisiez allusion, je dirais, à la situation actuelle. On va essayer de l'expliquer, d'abord, en mettant en avant les principaux éléments, les éléments saillants. Donc, je le rappelle, Milei a été élu avec près de 56% des voix, donc massivement par les jeunes. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce phénomène, cette situation ? Qu'est-ce qui a conduit à la situation que connaît actuellement l'Argentine ? Quelles sont les causes historiques ? On vient de les évoquer rapidement, mais je pense que ça vaut la peine de trouver les racines anciennes de cette situation.
Oui, je pense que c'est une dépolitisation en général des électeurs et du peuple argentin. Parce que depuis 40 ans, depuis qu'a commencé la transition démocratique en Argentine, la fin de la dictature, donc, le peuple a dû payer lourdement toutes les crises économiques qu'a vécu l'Argentine, du moment où du temps de la dictature déjà, on a commencé à privatiser et à supprimer tous les droits sociaux, etc. Et donc, depuis tous les gouvernements qui se sont succédés, la plupart d'entre eux en tout cas, n'ont pas pu remédier à cette situation, c'est-à-dire à remettre vraiment en question tous ces systèmes néolibéraux et d'une façon, disons, de fond. Et donc, du coup, il y a eu des périodes dans les différents gouvernements. Par exemple, celui de Carlos Menem qui a pratiqué la convertibilité, c'est-à-dire l'époque où on a décidé qu'un peso était l'équivalent d'un dollar. Et donc, cette espèce d'idée de dollarisation, elle vient de là, de loin.
On va en parler parce qu'elle est revenue, cette idée.
Oui, parce qu'elle revient. Ça fait partie du programme de Millet. Et donc, il y a eu ce type de mesures économiques qui, évidemment, avaient pour but de favoriser les tout-puissants et d'appauvrir les classes travailleuses. C'est-à-dire, pour revenir à votre question, c'est qu'aujourd'hui, l'électorat a manifesté un ras-le-bol et une totale incrédulité dans les classes politiques, c'est-à-dire dans les partis politiques. Et l'autre, là, Millet, il s'est pris de ça aussi, pour créer son discours populiste où il est contre tout ce qui est les partis politiques qu'il appelle les castes. Oui. Et donc, il a senti et il a pris à son avantage tous ces points de...
Voilà, c'est-à-dire l'insatisfaction, le rejet de la classe politique, avec la formule que se vayan todos, qui partent tous, qui résume ça.
Exactement. Donc lui, il fait dans son populisme qui est vraiment relève du fascisme, parce que ce type, il a un discours qui est carrément fasciste. C'est ça qui fait peur, hein, qui secoue toute l'Amérique latine, parce que, comme vous disiez au début, il y a eu Bolsonaro, après on a lui, là, ensuite au Chili, il y en a un qui se profile aussi. Enfin, je veux dire, c'est une situation qui est très, très dangereuse.
On va y revenir, mais alors on va aborder, hein, il y en a beaucoup. Je vous invite à en citer un certain nombre. Les mesures annoncées, pour certaines, d'ores et déjà décidées très rapidement, en quelques jours, en quelques semaines, et d'autres qui sont en vue, qui sont dans les tuyaux, pour donner aux auditeurs, aux auditresses, une idée, je dirais, du bulldozer Milei dans la vie politique chilienne et dans la vie quotidienne des habitants. Alors, qui veut bien donner des exemples, peut-être Américo, là, des mesures de Milei là, ces dernières semaines?
Bon, il y a déjà une mesure phare qui, pour l'instant, est en stand-by, mais qui est la mesure annoncée dans son programme, c'est la dollarisation de l'économie. À différence de la convertibilité où cohabitait donc le peso en parité avec le dollar, là, ça serait l'idée, ça serait de faire disparaître le peso, c'est-à-dire
le peso, la monnaie nationale au profit du dollar.
Au profit du dollar. Une idée qui n'emballe pas les États-Unis, ils veulent pas de ça. Donc même le Fonds monétaire international n'est pas trop pour. Mais politiquement, ça serait la réaffirmation de sa position et d'un certain leadership pour le gouvernement. Donc, bon, en plus de ça, il y a eu des mesures comme, par exemple, ouvrir les portes au capital étranger pour l'achat des terres. Donc, actuellement, il y a une loi qui règle ça, c'est-à-dire qui fixe un limite au-delà duquel une personne étrangère ne peut pas détenir des terres dans le pays. Ça, cette loi serait abrogée. La régulation des loyers, l'encadrement des loyers serait abrogé. L'encadrement de l'approvisionnement, il y a une loi d'approvisionnement qui fait en sorte que des produits d'alimentation aille d'abord au peuple argentin et ensuite à l'exportation. Donc ça serait abrogé aussi.
Oui, c'est en gros. Donc, toutes les barrières qui limitaient des manières libérales, qui régulaient un tant soit peu, seraient mises à bas.
Oui, le principe, c'est que l'État ne sert à rien et que tout ce qui est régulé par l'État, il faut l'éliminer. Et donc, on part du principe que nous sommes des individus, que chaque individu est responsable et que chaque individu doit être pris en charge par soi-même. Donc, aujourd'hui, on a supprimé, par exemple, des allocations. On a virtuellement supprimé, parce qu'on ne les a pas actualisées par l'inflation, des allocations des jeunes handicapés. Donc, si vous êtes handicapé, tant pis pour vous.
Débrouillez-toi.
Débrouillez-vous. Ouais. Donc, il y a 5 universités qui avaient été nouvellement créées l'année dernière et qui se retrouvent sans budget. Donc, ces universités ne vont pas ouvrir. Les autres universités savent pas comment ils vont boucler leur budget parce que le budget reste en monnaie à valeur historique alors que la monnaie a été dévaluée de 200%. Donc c'est vraiment on a supprimé une dizaine de ministères en Argentine.
Oui, pour faire des économies soi-disant.
On a supprimé le ministère de la science par exemple, de la technologie, on a supprimé le ministère de l'environnement, on a supprimé le ministère du tourisme.
Oui.
Donc, voilà, on pourrait dire beaucoup de choses, mais...
Et il y a des ministères supprimés aussi et qui deviennent des secrétaires.
Qui deviennent des secrétaries d'État.
Secrétariat d'État, je ne sais pas comment on dit ça. Et il met ensemble, par exemple, le ministère de l'Éducation, de la Santé et des Affaires Sociales. Si c'était rien, il met tout ça dans un seul paquet et il appelle, avec son jargon néolibéral, il appelle ça...
Capital humain.
Capital humain. Voilà.
Il y a le ministère
du
capital humain.
C'est le secrétariat du capital humain.
Alors, Eva, il y a aussi le ministère des femmes là, qui passe à la trappe.
Oui, qui passe dire à la mot, trappe. Là, eh bien, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a une députée de
La Libertad Avanza,
qui est le parti politique qui soutient Milei, qui, elle, a présenté un projet de loi pour abroger la loi de légalisation de l'avortement. Et donc, là, le 8 mai prochain, il y aura une immense manifestation en Argentine parce que le mouvement féministe en Argentine est très, très fort, les plus puissants d'Amérique latine. Donc, je crois que les femmes vont être
dans la rue, là, oui.
Dans la rue. Pour protester contre ça, parce qu'en plus, elles protestent contre tout, hein, les femmes. On sait bien qu'elles sont affectées à tous les niveaux. Et il y a aussi pour dire qu'en 80 jours de gouvernement, Milei a fait vraiment beaucoup de mal déjà au pays. Il y a déjà une inflation énorme qui fait que les salaires, il y a une perte de pouvoir d'achat énorme.
Oui, parce que l'argent a moins de valeur, mais les salaires ne suivent pas, donc ça rend exactement la vie quotidienne très difficile.
Oui, et pour les travailleurs et pour les retraités, par exemple. Et donc, c'est toute la population qui se voit très rapidement affectée, hein. Je ne sais pas combien de temps ça va durer.
Ce qui est frappant, c'est qu'on n'a pas dressé toute la liste de ces mesures. J'en cite deux. La restriction du droit de manifester avec la volonté de faire payer par les manifestants le coût du maintien de l'ordre.
Alors,
une peine de 3 ans et demi de prison en cas de blocage de la circulation. Oui, Américo.
Oui, ça c'est très important parce que c'est très significatif. C'est-à-dire on interdit la possibilité de manifester. Le décret considère qu'une réunion de plus de 3 personnes, c'est une manifestation, plus de 3 personnes. Et donc, ils ont besoin...
C'est comme au temps de la dictature.
Oui. C'est même encore pire, je pense, que ce qu'on avait à le moment de la dictature. Pour pouvoir se réunir à plus de 3, il faut demander une autorisation à la police. Et sinon, on est susceptible d'être sanctionné. C'est une expérience qu'on a déjà vécue. Donc, pendant la dictature, qu'on a déjà vécu, certains que ceux qui avaient un certain âge.
Bien sûr.
Les jeunes, et beaucoup de jeunes ont voté pour ce gouvernement, n'ont pas cette mémoire.
Dans l'ignorance de ce qui
était... Donc,
Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Hein. Mais ils vont finir par déchanter très vite. Hein.
Mm-hmm. Alors, rapidement, parce que le retour, vous le savez, bon, il y a aussi prévu la suppression de la pension attribuée aux personnes torturées sous la dictature pour donner ces sommes aux tortionnaires à qui la liberté serait rendue. Et donc, et la fin du travail de mémoire qui a été, tant bien que mal, engagé en Argentine.
Oui, parce qu'un autre volet de son programme, c'est le négationnisme. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont presque l'admiration pour les dictateurs, etc. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait cette suppression des allocations pour les ex-prisonniers politiques, les personnes torturées. Et qu'à côté de là, ils se mettent à défendre tous les gens qui sont incarcérés parce que c'était les agents de la dictature.
Absolument. Il y a un sens de revanche aussi.
Oui.
Parce qu'ils considèrent que des gens qui ont torturé, qui sont des génocides et qui ont été... Ça a été établi par des tribunaux, donc ce n'est pas une qualification comme ça. Donc, ça a été établi par des tribunaux. Bah, c'est la négation de tout ça et c'est la réinstauration d'un système autoritaire.
Alors, bon, j'ai souhaité un petit détour par le Chili, mais on n'aura pas de temps. On vous réinvitera, là, Eva. Je crois qu'il faut dire un mot que des conditions dans lesquelles, rapidement, bon, l'opposition, les syndicats se sont exprimés dans la rue, par une grève générale, par des grèves qui se poursuivent dans un certain nombre de secteurs, par des manifestations dans un certain nombre de villes. Bon, dites-nous ce qu'est l'année là-dessus, dans ce contexte très complexe, avec une opinion bon, qui est un peu tétanisée, et bon, un gouvernement qui produit les ravages que nous venons de décrire.
Alors, le 24 janvier dernier, il y a eu une grosse manifestation, donc une grève générale, et ça a été très important, parce que d'une part, on est en plein été en Argentine, plein vacances. Il faut penser qu'on est comme si c'était en France le 24 août. Ah, donc, oui. Très peu de gens se mobilisent à ces dates-là, normalement, parce que les gens sont en vacances. Donc, il y avait ça d'un côté. D'un autre côté, l'interdiction de manifester, les menaces du système de sécurité, et donc sur une répression, donc menace d'une répression importante. Et malgré ça, la manifestation était massive. Donc, ça permet d'imaginer que tout n'est pas encore perdu et qu'il y a de la place encore pour le peuple pour sortir dans la rue et exprimer son mécontentement de sorte à être entendu par le gouvernement. C'est ce qu'on espère.
Donc ça, on le verra les uns les autres dans les semaines et les mois qui viennent. Nous arrivons au terme de cette rencontre. Alors, je rappelle le rendez-vous de Solidarité avec le peuple argentin, le jeudi 14 mars à 19h à la Carmagnol, à Figuerolles, 10 rue Haguenau, Argentine, à Nocebende. Merci à l'un et l'autre de notre échange et à une prochaine fois.
Venez nombreux.
Merci à vous et on vous attend à la Carmagnol le 14 mars.
Ouais, merci.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarroch.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, un pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.